présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. La nuit. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP.
Ciel rouge et menaçant. Il fait chaud, très chaud, et un vent terrible empêche d'avancer. Plus il monte, plus le vent est fort. monte. Il doit monter. Il est en sueur. La chaleur et ce vent, ce vent. Il monte, monte, monte. Le chemin est ici haut. Et ce vent qui soulève le sable. J'ai du sable de partout, sur mes vêtements, mes souliers, collés à mes pantalons, dans ma bouche. Faut monter, monter, je dois monter. Et ce ciel me l'encend, il fait chaud. J'ai soif, soif. Enfin, il arrive au sommet. Une immense croix, avec dessus un Christ géant. Juste le temps de le voir, qu'une rafale de vent le repousse en arrière. Une rue sale, avec des maisons ou plutôt des taudis. Une foule apparaît, une foule de gueux, des enfants à guenilles qui pleurent, des hommes, des femmes de tout âge, sales, mal peignés, sans chaussures. Certains n'ont plus de bras, d'autres n'ont qu'une ou pas de jambes. Ceux-là sont sur des brancards de bois. Il y a aussi des aveugles, des lépreux, des cancéreux et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et même des chômeurs. Ils défilent en criant « Vive, vive, vive !» Une petite vieille toute maigre, triste et fragile, lisse avec sa main un morceau d'étoffe rouge. Elle aimerait qu'imiter la foule. Elle est silence. Franck se trouvait au milieu de la foule. Il était le seul à être bien habillé. Il se sentait gêné et avait honte. Un homme à côté de lui lui disait « La ville a décidé qu'il n'y aurait plus de pauvres. Alors, elle veut décimer tous les pauvres. Tout pauvre sera supprimé. C'est sa politique sociale. » Un autre homme dit « Nous avons autant le droit de vivre que les autres. La vie appartient à tous. Nous avons faim, soif, froid, oui. » Mais nous souffrons de tous ces maux, de toutes ces maladies. Mais pour nous, la vie, c'est cela. Et ça ne nous empêche pas de l'aimer. Nous n'avons rien. La seule chose que nous avons, c'est la vie. Pourquoi nous prendrons-t-on notre seul bien? Moi, j'aimerais vivre éternellement, Franck dit. Mais si vous voulez vivre éternellement, vous souffrirez éternellement, puisque votre vie n'est faite que de souffrance. Tout à coup, la foule s'arrête et se tait. La rue est barrée, un barrage de soldats, de camions. Une voix qui provient d'un appareil dit... Dans un programme social et humanitaire, la ville a décidé, avec son conseil municipal, de supprimer toutes les personnes qui avaient une vie faite de souffrances et de malheurs de toutes sortes. Il est inhumain de laisser la vie à des gens qui souffrent. Il faut abréger leurs souffrances. Il est inhumain que des gens qui sont heureux et bien portants puissent avoir devant leurs yeux des gens qui souffrent. Nous allons vous conduire dans des quartiers spécialisés où des médecins feront en sorte à ce que vos derniers instants soient les plus brefs possibles et que vous souffrez le moins possible aussi. Pour ce qui est de votre cœur, ne vous en faites pas. pas. Nous avons une porcherie. Et comme chaque porc mange, il n'a pas eu le temps de finir qu'une foule furieuse se met à crier. Nous voulons vivre, nous voulons vivre, nous voulons vivre. La voix qui provient de l'haut-parleur se met à crier. Ramassez-moi tout ça. Mettez-les-moi dans les camions. La ville fut encerclée. L'armée lançait des bombes lacrymogènes. Franck était pris par la foule, qui tantôt allait à gauche, tantôt allait à droite.
Ce n'est qu'un début, toujours continuons le combat au milieu de la nuit.
Après une heure,
elles illuminent tout
le désordre, de bagarre.
Il est 2h35 de la nuit.
L'armée commença à s'emparer des enfants pour les mettre dans les camions.
Et brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel.
Les gens s'arrêtèrent de se défendre et se laissaient guider par l'armée. Que pouvaient-ils faire contre des hommes bien armés et nourris? Ils étaient mis en rang, on les montait dans les camions. Quand ce fut le tour de Franck à monter, comme il était bien habillé, on lui demanda qui il était. Il montra ses papiers. Alors on lui dit que sa place n'était pas ici. Mais Franck dit: mais moi, je veux mourir.
Vous n'êtes pas à mourir. Vous êtes riche, donc heureux.
Je suis riche, mais je ne suis pas heureux. Je veux mourir tout de même.
Vous ne pouvez pas demander à la mort. Et nous ne pouvons pas vous la donner. Car il est écrit sur nos règlements qu'une personne riche est heureuse.
Si je veux mourir avec les pauvres, que dois-je faire?
Aller à la mairie et tâcher d'avoir une dispense.
Monsieur, vous désirez?
Lui demande une hôtesse. J'aimerais avoir une dispense pour pouvoir mourir avec les pauvres.
Vous allez prendre l'ascenseur 3D. Vous allez aller au 18e étage. En sortant de l'ascenseur, vous tournerez à droite, puis à gauche. Vous verrez des escaliers. Vous les prendrez et vous descendrez jusqu'au 5e étage. Ensuite, vous prendrez l'ascenseur 1C. Vous irez jusqu'au 8e étage et là, vous irez au bureau 155 358 qui est le bureau des dispenses. est enfin arrivée au bureau des dispenses. Une jeune fille.
Monsieur, vous désirez ?
Oh là là là, il est 15h déjà. 15h30.
Il faudra venir un peu plus tôt la prochaine fois. Je termine mon travail à 16h. À 15h30, je ne reçois plus personne car il faut que comme je commence à me préparer pour partir. Bon, que voulez-vous ?
J'aimerais une dispense pour avoir le droit de mourir avec les pauvres.
Une dispense pour avoir le droit de mourir avec les pauvres. Ah, Oui, la dispense 653B2.
Bon, voilà. Il vous faut une carte d'identité, de sécurité sociale, le livret de famille, une autorisation de votre femme et de vos enfants, un certificat de votre employeur, des attestations de naissance, de vos écoles, une copie de tous vos diplômes, un carnet de santé, une attestation de police comme quoi société n'a rien à vous reprocher, une autorisation, oh là là, des impôts, le dossier ESY 1836, et pour finir, une attestation, non, un certificat de votre sage-femme disant que vous êtes un nouveau-né vivant et non un nouveau-né mort.
Mais ma sage-femme est morte depuis 10 ans.
Alors, s'il vous manque ce papier, votre demande ne sera pas acceptée.
Mais vous voyez bien que je ne suis pas mort-né.
Non, car pour le savoir, il faut ce papier.
Mais si j'étais mort-né, je ne demanderais pas à mourir.
Ça, je ne le sais pas. Ce n'était pas prévu dans le règlement.
Franck est à genoux, tête baissée. Je lui dis: il faut que tu vives comme tout le monde. Il faut vivre pour souffrir et mourir. Il faut vivre pour souffrir et mourir. Se retrouve dans la rue. S'avance vers lui une vieille femme. Elle se met à crier:
mais c'est mon mari! Tu savais bien que je te retrouverais! Ne cours pas! Arrêtez-le! 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 Arrêtez-le!
Levez-vous. Vous appelez bien Franck Pierre de la Tour du Pin.
Oui, monsieur le juge.
Vous êtes accusé de tentative de suicide, de bigamie, de désertion, d'espionnage. Vous avez refusé de vous faire opérer, de travailler, et j'en passe. Ah oui. Vous n'avez pas amené à la mairie le dossier ESY 1836. Vous savez que vous risquez gros. Rien que le fait de tenter de se suicider vous vaut la peine de mort. Article E632-25. Toute personne ayant raté son suicide sera passible de la peine de mort. Grâce à cet article humanitaire, nous avons fait diminuer les suicides de 3%. Avant que les témoins défilent devant la barre, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense?
Non. Bien au contraire, je suis très heureux de risquer la peine de mort.
Accusé! Taisez-vous! Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Faites entrer le premier témoin.
Le père de Franck s'avance.
Vous vous nommez?
Comte Emmanuel de la Pierre de la Tour du Pin. Je suis le père de l'accusé.
Puisque vous êtes le père, vous n'aurez pas à porter un serment. Je vous écoute.
Je suis venu vous dire, c'est que mon fils est d'une famille très respectable. Il a reçu une éducation irréprochable, religieuse, morale, et a eu des études. Je l'ai appelé pour un entretien concernant son avenir. Et je lui ai dit, « Mon fils, tes études sont terminées. Il te faut choisir un métier. Oui, là, pour vivre, il faut avoir de l'argent. Et pour être heureux, il faut en avoir beaucoup. » Il me demanda pourquoi. Je lui dis, « Le bonheur se trouve dans l'accumulation des richesses. » Alors il me dit, « Mais mes goûts ne se trouvent pas dans la richesse, le luxe, mais dans les choses simples. Pour être heureux, je n'ai besoin que de très peu de choses. » Je lui répondis, « Mon fils, tu ne connais pas le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. C'est la puissance. C'est aller de l'avant, toujours de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut travailler. Moi, je n'ai pas pris un seul jour de vacances. » Mais vois tout ce que j'ai pu entasser. Il m'a dit, oui, mais toutes ces richesses que tu as entassées ne servent à rien, puisque tu n'as pas le temps de t'en occuper. Je lui ai dit, cela n'est pas la question. Et qu'il fallait qu'il arrive à suivre mon exemple pour me succéder. Voilà, monsieur le président, ce que j'avais à vous dire.
A-t-il suivi votre exemple?
Non, puisqu'il est ici.
Très bien. Faites entrer le témoin suivant.
Non,
prénom.
Je suis Aurore de la Pierre de la Tour du Pin. La femme de l'accusé.
Je vous écoute.
J'ai fait la connaissance de mon mari par hasard. Il m'a tout de suite aimé. J'ai été surprise de cet amour subit. Je lui ai demandé comment se faisait-il qu'il m'aimait aussi vite. Il m'a dit qu'il n'en savait rien. Il m'a promis de m'aimer toujours et éternellement. Pour lui, j'étais la plus belle, la plus douce des femmes. Et puis, un matin, il ne m'a plus voulu et il s'est enfui en me lançant des injures. Je l'ai recherché durant des années et un jour, je l'ai rencontré. Il se retrouvait rue de Victor Hugo. Je l'ai appelé. Il voulut s'enfuir. Mais j'ai appelé la police, mais il avait disparu.
Accusé, qu'avez-vous à dire?
Mais cette femme est folle. Elle pourrait être ma grand-mère.
Madame, qu'avez-vous à répondre?
C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de la chambre, il est redevenu jeune. Vous savez, c'était à cause de la guerre. On avait besoin de jeunes recrues.
Je vous remercie, madame. Faites entrer le témoin suivant. Nom, prénom, profession.
Monsieur Turfleur, professeur d'instruction religieuse à Saint-François.
Dites ce que vous avez à dire.
J'ai eu comme élève l'accusé. C'était un élève étrange. Il passait son temps à rêvasser. Il n'écoutait pas les leçons. Pourtant, l'enseignement religieux est un enseignement très intéressant.
Sans l'enseignement religieux, il est impossible de vivre une vie de bon chrétien, donc d'honnête homme. Je ne comprends pas pourquoi il ne suivait pas mes...
Accusé, qu'avez-vous à dire?
C'était donc cela l'enseignement religieux? Il est interdit, il faut que l'on dise. C'est donc cela la religion?
Bon, témoin suivant. Nom, prénom, profession.
Mademoiselle Béatrice de la Pierre de la Tour du Pin, cousine de l'accusé. Bonjour cousin, ça va?
Je vous écoute.
Bien, voilà. Je connais mon cousin depuis que je suis toute petite. Nous jouons toujours ensemble. Et puis un jour, c'était en été. Il faisait très chaud. J'avais 12 ans et lui 14. Nous jouions aux espions dans sa chambre. Bien sûr, nous étions habillés, même sur le lit, mais enfin... Une autre fois, nous jouions au poker. Et je me suis trouvée toute nue. Et puis voilà. Ensuite... Nous sommes vus plusieurs années plus tard. Et puis, là, il m'a dit qu'il m'aimait. Moi, je n'ai rien voulu savoir. Je lui ai dit que lorsque j'aimais quelqu'un, la personne ne le savait pas. Je suis une fille sérieuse. Voilà.
Merci, mademoiselle. Témoin suivant.
Au revoir, cousin.
Bon, témoin suivant. Non, profession.
Professeur de la faculté de médecine Armand Veil. J'ai eu le prévenu comme patient à la clinique Sainte-Marguerite. Je devais l'opérer.
Qu'avait-il?
L'opération nous l'aurait dite. Donc, je devais l'opérer. Je l'avais prévenu et comme il était très faible, je savais qu'il ne pouvait pas supporter l'opération. Alors, par pure humanité, je lui ai envoyé un prêtre pour lui envoyer les derniers sacrements. Le prêtre est revenu et il m'a dit qu'il n'avait pas pu le confesser car il avait disparu.
Pourquoi votre patient, qui était mourant, vit-il encore?
Parce que je n'ai pas pu l'opérer.
Accusé, pourquoi êtes-vous parti de la clinique?
Je ne sais pas. J'étais dans mon lit et je me suis senti partir.
Bon, les jurés apprécieront. Témoin suivant. Nom, prénom, profession.
Je suis la deuxième femme.
Je vous écoute.
C'est la mère de Franck qui a organisé notre mariage. Au début, tout allait bien. Et puis, petit à petit, je ne le voyais plus. Nous ne nous voyons qu'entre deux portes. Et puis, 10 ans après notre mariage, je ne l'ai plus revu. Il avait disparu, comme ça. Je suis restée seule avec mon fils. Voilà, c'est tout. Pouf, de toute façon, je ne le regrette pas. Je suis beaucoup mieux sans mari. Pour ce qui est de sa première femme, là, je ne le savais pas.
Accusé, qu'avez-vous à dire?
Rien.
Bon, passons. Témoin suivant. Nom, prénom, profession.
Je suis sa marraine. Je lui ai tricoté des chaussettes et écrit des poèmes. Je suis sa marraine.
Bon, ça va. Passons à un autre témoin. Nom, prénom et profession.
commandement, coup de froid de la 8e compagnie de chasseurs alpins.
Je vous écoute, mon commandant.
Pendant la dernière guerre, en tant que chasseurs alpins, nous étions dans le désert. J'ai eu sous mes ordres l'accusé, j'ai tout de suite vu que c'était une tête brûlée. C'était porté volontaire pour une mission très délicate, dangereuse. Voir ce que faisait l'ennemi. Ceci m'a paru louche. Normalement, il n'aurait pas dû revenir vivant de cette expédition. Mais il est revenu. Et en plus, il connaissait le mot de passe. J'ai tout de suite compris qu'il avait passé à l'ennemi et qu'il revenait pour nous espionner. Je l'ai fait arrêter et mettre en prison. Il y est resté 2 mois. Chose étrange, alors que ses camarades maigrissaient en faisant des exercices, lui, il grossissait. Et puis, un jour, il a disparu. Comment ? Mystère. Pas de trou, pas de barreau cassé, rien. Voilà, monsieur le président. J'accuse le soldat Franck de désertion, d'espionnage et d'avoir passé à l'ennemi.
Je vous remercie, mon commandant. Témoin suivant.
Nom, prénom et profession. Monsieur Morand, je suis celui qui a empêché l'accusé de se suicider. Je n'ai pas grand-chose à dire. Sinon que j'étais son voisin de palier. Je suis rentré chez lui pour lui demander du sel. La porte était ouverte, je suis rentré et je l'ai vu prêt à se pendre. Je me suis précipité sur lui et appelé à l'aide. Voilà, 1 heure après, la police est venue.
Accusé, pourquoi vouliez-vous vous suicider ?
J'en avais assez de cette vie stupide. J'avais beau chercher, rien ne me raccrochait à la vie. Je me disais qu'il fallait être ou trop fort ou trop faible pour accepter la vie. Comme je n'étais ni l'un ni l'autre. Et puis, la vie nous donne pour nous prendre, transforme tout. On se marie avec une femme belle et jeune, et on se retrouve avec une vieille femme. D'un acte héroïque, on le transforme en trahison. En temps de guerre, il faut tuer. En temps de paix, il ne faut pas. Il faut travailler pour accumuler des richesses qui ne nous servent à rien parce qu'on n'a pas le temps de s'en servir. Plus on entasse, plus il faut travailler pour gagner de l'argent. La médecine ne nous guérit pas. Elle essaie de savoir ce que l'on a pour pouvoir nous soulager. Et de toute façon, on ne peut rien contre la mort. La religion, ce n'est plus aimer Dieu, mais c'est apprendre ce qui est permis et ce qui est interdit. Voilà pourquoi je ne veux plus vivre. La vie est absurde, le monde aussi. Quoi que l'on fasse, on est toujours perdant.
Pourquoi cette histoire de pauvres ? Que cherchiez-vous avec eux ?
Parce que dans mon milieu, je ne trouvais pas une raison de vivre, alors je suis allé voir chez les pauvres. Mais chez les pauvres, c'était la même chose. Je me suis rendu compte que l'on soit en haut ou en bas d'échelle, c'est pareil.
Bon, bon, bon. La séance reprendra dans 2 heures.
Et attend la prochaine séance. Il est assis sur un banc.
Tout à coup, il voit venir à lui une foule de gens de toutes conditions. Cette foule crie, hurle son nom. Franck prend peur. Il se lève et court vers la sortie.
Dehors, la rue est déserte. Il se retourne. La foule le suit. Elle est formée de ces deux femmes, de médecins, de prêtres, de militaires, d'ouvriers, de pauvres, de malades. Ils sont tous furieux de ce que Franck vient de dire. Ils n'avaient pas le droit de leur enlever leur illusion. Il le payera cher pour lui prouver qu'il a tort et que l'on a raison, car il faut garder ses illusions. Ils crient tous « Franck, Franck !» d'un air menaçant. Franck court, court et cherche à se réfugier. La foule le suit. Il court de plus en plus vite. Son corps bat très fort. Il est en sueur. Mais comment va cette foule? Pourquoi est-elle contre moi? La foule grossit de plus en plus. C'est une vraie marée humaine. De tout âge, de toute condition, elle court, elle hurle. Elle devient de plus en plus haineuse. Franck ne sait plus où il va. Il va à droite, il va à gauche. Toutes les rues sont désertes, seul lui et la foule. Il n'en peut plus de courir. Il n'en peut plus de courir. S'il savait au moins ce qu'on lui veut. Et pourquoi court-il au fait? Il ne le sait pas. C'est son instinct qui le pousse. Il se sent comme un renard traqué par les chasseurs. La foule est de plus en plus dense, de plus en plus immense. Elle s'approche de plus en plus de Franck. Franck le sent. Il tourne une rue et là, il se trouve dans un cul-de-sac. Une rue sans issue. Il ne peut se retourner en arrière, ni aller de l'avant. Il est en sueur, épuisé. La foule s'approche de lui. Une échelle. Grimpe sur l'échelle. Il est tout en haut de l'échelle. Elle fait 3 mètres et colle sur la façade d'un immeuble. La foule menaçante, remplit la torse. Il regarde Franck en silence, puis...
Franck, Franck, où sont tes femmes? Descends!
Franck, Franck, je suis ton médecin, descends! Franck est apeuré par cette foule, mais il se cramponne à l'échelle. La foule se met à crier,
descends, descends, descends!
Une voix plus forte que les autres se fait entendre, Franck! Je suis ton commandant. Descends.
Franck, je suis ta marraine.
Elle est habillée d'un chapeau et d'une robe tricolore.
Je t'ai tricoté des chaussettes et écrit des vers. Tiens, regarde.
Elle lui montre des chaussettes tricolores et des papiers roses. La foule hurle.
Franck, Franck, Franck.
Les hommes secouent l'échelle pour le faire tomber. Franck se maintient comme il peut. Pendant ce temps, la foule crie, hurle son nom. Il secoue tellement l'échelle qu'elle risque de tomber sur la foule avec Franck dessus. Attention! L'échelle tombe sur la foule. Il y a des cris, des blessés, c'est la panique. Mais où est Franck?
Tu rentres quelque chose? Faut pas le laisser comme ça, il va mourir.
Mais où est Franck? Il y a tout juste le temps de se mettre sur le rebord de la fenêtre et avec son poing, il a cassé la vitre. Sa main est en sang.
Il a ouvert la fenêtre et entré dans l'appartement. La foule l'a vu et est furieuse. Elle marche sur les blessés, sur l'échelle où se trouvent les blessés. Elle se dirige pour défoncer la porte d'entrée de la maison. Franck a peur. Il est en haut. Il monte les escaliers. Monte les escaliers. Il entend la foule qui est à sa poursuite, qui monte elle aussi. Elle se rapproche de plus en plus de lui. Franck n'en peut plus. Il ouvre la porte d'une pièce. Il se retourne. Tiens, cette pièce me dit quelque chose. Il regarde à la fenêtre. C'est le parc du château de ses parents. Comment a-t-il pu faire pour arriver jusqu'ici? Tout à coup, il entend la foule. Elle est là, derrière cette porte, menaçante. Elle essaie d'enfoncer la porte et crie son nom. Qu'a peur et se taire comme un renard que l'on vient prendre dans son terrier. Est assis à terre, le dos plaqué au mur, une couverture sur lui. De temps en temps, des voix, des coups, le font sursauter. Franck a de la sueur. Il a de la fièvre. Il tremble. Il a aussi très peur. Le jour se lève, il n'a pas dormi de toute la nuit. Les voix se font de plus en plus menaçantes. Franck, je suis ta femme. Viens. Franck, je suis ta marraine. Franck, Franck. Il faut obéir, c'est moi qui te l'ordonne, l'être suprême. Franck sursaute à chaque fois. Il aimerait hurler, mais il ne le peut. Tout d'un coup, plus rien. Les heures passent, Franck s'est endormi. Thank you.
Il entend cogner à la porte. L'on met une clé dans la serrure. Prends qu'à peur, il tremble, il aimerait se sauver, hurler. Mais il est trop faible. La porte s'ouvre. Son corps bat très fort. Et il voit apparaître son père et sa mère. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Nuit, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.